Voilà.
Donc c'est la troisième séance autour du Père Joseph. Je vais revenir un petit peu en arrière. Le plus souvent, on reviendra en arrière. C'est de toute façon à voir que c'est une continuité, la vie. On commence par la naissance, puis on va jusqu'à notre mort. C'est une continuité. Et le plus souvent, les événements qui viennent dans notre vie, eh bien, c'est toujours relié à notre passé. Notre passé, c'est pas, ça s'évanouit pas. Ce que j'ai vécu hier s'évanouit pas. Ça, voilà, c'est moi aussi. Et donc, c'est important de revenir en arrière. Alors, je voudrais que vous imaginiez le petit Joseph, il a 5-6 ans et il est hospitalisé. Il est hospitalisé à l'hôpital d'Angers parce qu'il a une malformation des jambes ou bien des hanches et il a les jambes arquées. Donc c'est quelque chose qu'on peut soigner, mais c'est quelque chose qu'il faut soigner. Et donc sa maman l'a mis à l'hôpital. Et le petit Joseph est à l'hôpital. Et sa maman vient le voir régulièrement. Et un jour, alors qu'elle vient le voir, elle demande à Joseph, tu as eu le paquet de bonbons que je t'ai laissé hier ? Et le petit Joseph lui dit, ah mais non. Et alors, la maman Vresinski se rend compte que les religieuses de l'hôpital, l'hôpital était tenu par des religieuses, les religieuses de l'hôpital avaient privé le petit Joseph de son paquet de bonbons, ou bien lui avaient pas donné, pour des raisons qu'on ignore. Si ça se trouve, le petit Joseph avait fait une colère, ou si ça se trouve, peu importe, ou bien il n'y avait pas de raison, ou simplement les religieuses ont oublié, elles ont pensé que c'était pas important, un paquet de bonbons, elles ont oublié. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La maman Vresinski, elle a pris son gamin et elle est partie de l'hôpital. Et le petit Joseph n'a pas pu être soigné. Et du coup, il a gardé pendant toute son enfance et toute son adolescence les jambes arquées et il dit qu'il en a souffert parce que on se moquait de lui, parce que il claudiquait, il boitait un peu. D'ailleurs, toute sa vie jusqu'à sa mort, il a toujours légèrement boité. Il boitait pas vraiment, mais il avait une démarche qui faisait que un peu chaloupé, c'est-à-dire que il y avait voilà, parce qu'il avait un défaut des jambes. Et ce défaut vient de ce moment-là. Et le père Joseph commente dans un de ses livres, voilà ce qu'il dit. Le tout premier contact avec autrui, avec les autres gens, ceux qui m'entouraient, dont je garde le souvenir, c'est cet événement-là dans l'hôpital. Et pour moi, c'est une injustice et un préjudice, c'est-à-dire une difficulté, qui devait marquer mon corps pour la vie. Alors une injustice, au fond, le père Joseph, quand il relit ça des années après, cet événement de son enfance que sa maman a dû lui raconter, il relit ça comme une injustice, c'est-à-dire que on pourrait se dire, mais au fond, Madame Vresinski, elle a eu tort. Au fond, c'est une mère de famille, son fils est soigné, c'est vrai que c'est pas normal qu'on n'ait pas donné les bonbons aux gamins. Mais, mon Dieu, elle pouvait passer là-dessus et puis laisser Joseph être soigné. C'est quand même plus important que son fils soit soigné plutôt qu'il y ait un paquet de bonbons qui ait été donné ou pas donné. C'est pas grave. Mais le père Joseph, il comprend que si sa maman a réagi comme ça, c'est que c'est une humiliation supplémentaire. Au fond, c'est vrai que c'est pas grave. Mais elle a réagi comme ça parce que elle a senti que c'était pas juste, que, au fond, toujours elle avait des problèmes, pour des choses ridicules, mais elle avait des problèmes. Et du coup, elle en pouvait plus. Et alors, ça peut nous arriver, des fois, pour une bricole, on a l'impression que c'est une montagne qui nous tombe sur la tête. Pour quelqu'un d'extérieur, c'est une bricole. Mais pour vous, au moment où ça vous arrive, c'est une montagne qui tombe sur la tête parce que ça vient après des tas de difficultés. Et donc Joseph, longtemps après, il réalise que sa maman, si elle a réagi comme ça, eh bien c'est parce qu'elle a vécu ça comme une injustice. Et alors si je vous raconte cette histoire que le père Joseph raconte tout au début de son livre « Les pauvres sont l'Église », c'est qu'on peut dire que Joseph, devenu ensuite le Père Joseph, eh bien le Père Joseph, il a porté l'injustice dans son corps jusqu'à sa mort. Alors, ça ne veut rien dire porter l'injustice dans son corps, parce que l'injustice, hein, c'est pas comme si je porte une écharde dans mon corps ou voilà. Non, mais ça veut dire qu'il a été marqué par ça et qu'il prend conscience, une fois qu'il est devenu un peu plus âgé, eh bien il prend conscience que tout ce qu'il a vécu, ça a été marqué par cette injustice. Et ce n'est pas important de se rappeler de cet événement. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que c'est pareil dans notre vie. On peut avoir vécu des événements difficiles, mais ce n'est pas ces événements difficiles qui sont importants. C'est qu'est-ce qu'on en a fait. Ça nous a permis de vivre quoi après. Est-ce que ça nous a fait plonger ou est-ce que ça nous a fait remonter. Ou est-ce qu'après nous avoir fait plonger, ça nous a fait remonter. C'est-à-dire que on s'arrête pas sur un événement du passé, un événement malheureux. Cet événement, il a eu lieu. Donc il est important pour nous. Mais ce qui est important, c'est on a vécu quoi après. Mais quand on prend conscience qu'on a vécu des choses après, ça ne gomme pas l'événement. Cet événement malheureux, il a eu lieu. Et c'est ce que nous montre le Père Joseph. Quand le Père Joseph écrit ce texte, c'est un texte qui est tout à fait au début des Pauvres sont l'Église, mais c'est un texte qui ne fait pas partie du livre. C'est un texte qui a été rajouté après, qui est de 1972. Le texte des Pauvres sont l'Église, c'est de 1983. Le Père Joseph a rajouté ce texte en plus, justement, qui est un texte sur son enfance. Ce qui est important, c'est que le Père Joseph se rappelle de cet événement parce qu'on ne le gomme pas. On ne fait pas comme si ça n'existe pas, parce que ça fait partie de sa vie, parce que ça va influencer sa vie, parce que ça va lui permettre de comprendre des choses qu'autrement il n'aurait pas compris. Et c'est pour ça qu'il dit ceci. Sans doute est-ce pour cela, cette injustice, ce fait que sa maman l'a retiré de l'hôpital alors qu'il aurait dû être soigné, sans doute, je cite le Père Joseph, sans doute est-ce pour cela que me sont devenus intolérables ces nez qui coulent, ces jambes tordues, ces jeunes corps déjà griffés qui m'entourent aujourd'hui dans les cités d'urgence, les taudis, les slums. C'est-à-dire que quand il voit dans les cités difficiles des enfants qui paraissent malheureux, paraissent tristes, eh bien, il pense à son enfance et au fond, ça lui devient insupportable. Et il explique le fait que ça lui devient insupportable parce qu'il a vécu dans son enfance. Ce n'est plus un poids pour lui. Les années ont passé. Mettons qu'il avait 5-6 ans au moment de cet épisode de l'hôpital. Quand il en a 50, quand il en a 60, c'est plus un poids cette affaire. Il ne regrette plus de ne pas avoir mangé les bonbons. Mais ça l'a marqué à vie au point qu'il dit « Mais c'est peut-être pour cette raison que la misère que je vois autour de moi m'est devenue intolérable. » Donc, l'enfant Joseph vit dès tout petit l'injustice, davantage même. Il dit « Dès la petite enfance, je cite encore ce même texte de 1972, « Dès la petite enfance, se liaient, étaient ensemble, trois choses, manque d'argent, honte et violence. » Manque d'argent, honte et violence. On peut dire que là, il y a beaucoup d'autres définitions qu'on pourrait donner, mais on pourrait dire que là, il y a une définition de ce qu'est la misère. Le manque d'argent, mais pas seulement le manque d'argent, mais aussi la honte. Et pas la honte qui est que si j'ai déchiré mon pantalon et que je m'en rends compte dans le métro, alors j'ai honte, mais j'ai honte pendant 5 minutes ou pendant une demi-heure. Puis quand je rentre chez moi, je change de pantalon et puis c'est fini. Mais une honte qui est à l'intérieur. Une honte qui vous attaque à l'intérieur. Donc manque d'argent, honte et puis violence. Et la violence, c'est pas seulement les coups, c'est aussi la violence de la vie. Par exemple, là, l'enfant Joseph qui est retiré de l'hôpital, c'est une énorme violence, même si sa maman ne lui a pas donné de gifle ou de coup de pied dans les fesses, mais c'est une violence parce que c'est une injustice et que l'injustice est une violence. Donc, se rappeler que c'est de ce monde-là, de cette expérience-là, que vient le Père Joseph et que ça, ça l'a marqué toute sa vie et que ça a déterminé, ça a engagé, ça a fait naître tout son engagement par rapport aux plus pauvres. Un deuxième point que je voudrais souligner de son enfance, pour qu'on ne l'oublie pas, il y a deux choses qui ont frappé Joseph, le petit Joseph, le jeune Joseph. C'est la foi de sa mère, et puis c'est le fait que l'Église était proche des pauvres. Deux choses. La foi de sa mère, c'est-à-dire que Joseph, lorsqu'il est plus grand, lorsqu'il est adulte, se rappelle que sa maman pleurait beaucoup, elle pleurait beaucoup, parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'elle était toute seule, parce que la vie était trop dure, parce qu'elle n'avait pas assez de quoi donner à manger à ses gamins, mais qu'en même temps que ses larmes, elle priait. Et cette prière de sa mère l'a beaucoup, beaucoup marqué, il en parlait beaucoup. Premier point. Deuxième point, l'Église proche des pauvres. En fait, il souligne qu'il était très frappé du fait que le curé de la paroisse Saint-Jacques, qui est devenu ensuite l'évêque de Soissons, Monseigneur Douillard, on en parlera ensuite lorsqu'il a été ordonné prêtre et lorsqu'il a été prêtre, parce que ce sera l'évêque du Père Joseph, mais le Père Douillard, lorsqu'il était curé de la paroisse Saint-Jacques à Angers, eh bien il se déplaçait chez Madame Wrezinski pour lui demander le denier du culte. Et Madame Wrezinski en était honorée. C'est-à-dire, au fond, le prêtre, il se déplaçait chez la plus pauvre du quartier en lui disant ben, « Vous avez peut-être une petite pièce à donner pour l'Église. » Et Madame Wrezinski était honorée, c'est-à-dire qu'elle avait une place. Elle avait une place. Elle pouvait peut-être donner, aujourd'hui on dirait, donner un euro, mais voilà, le prêtre avait l'attention, le respect, pour lui dire ben, « Le peu que vous pouvez donner, c'est important, vous pouvez construire. » Et on peut se rappeler l'épisode dans l'Évangile, hein, de la veuve qui donne une petite piécette. Vous vous rappelez cet épisode, hein ? Un jour, Jésus se trouve devant le temple, il est avec ses apôtres, et puis tout d'un coup, il est en train d'observer les gens riches qui donnent de l'argent. Donc, ils mettent de l'argent dans le tronc. Et puis tout d'un coup arrive une pauvre veuve, toute seule, qui met deux petites piécettes. Et à ce moment-là, Jésus s'adresse à ses apôtres et il leur dit « Vous avez vu cette dame ? Elle n'a pas donné grand-chose, mais elle a donné tout ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est. » Et au fond, l'argent que donnaient les riches, qui était absolument nécessaire, parce qu'à l'époque, on reconstruisait le temple. Le temple avait été détruit et il était encore en train d'être reconstruit. Donc il y avait besoin d'argent pour le construire. Et donc les riches qui donnaient de l'argent, leur argent était utile. Il allait permettre de construire telle colonne, tel dallage par terre, tel toit. Et Jésus dit, mais finalement ce que donne cette veuve toute seule, qui n'a pas d'argent, qui a donné deux petites piécettes ridicules, c'est l'équivalent d'un centime, elle, comme si elle avait donné deux centimes, eh bien c'est peut-être plus important pour construire le temple. Et cette femme toute pauvre, c'est peut-être elle qui construit le mieux le temple. Eh bien, c'est un peu l'expérience de Madame Wrezinski, lorsque le curé vient lui demander le peu qu'elle peut donner, elle se sent honorée, c'est-à-dire qu'elle dit « Mais au fond, l'Église fait attention à moi. Moi aussi, je peux donner de l'argent pour le denier du culte. » Et ce sont deux exemples que donne le Père Joseph souvent. Sa mère qui prie, malgré le malheur, et ce prêtre qui vient demander, qui se déplace et qui vient demander le denier du culte à cette pauvre femme qui était Madame Wrzesinski. Bon, alors, ça c'est pour se remettre, hein, voilà, le Père Joseph, il a vécu ça dans son enfance, ça l'a beaucoup marqué. Ça veut dire que dès son enfance, il a été frappé par aussi la foi, la misère, l'injustice, la violence, le manque d'argent, la honte, mais aussi la foi, une relation à Dieu. Une relation à Dieu qui, ensuite, peu à peu, s'est estompée, s'est affaiblie, parce que, mon Dieu, la vie était difficile, et puis c'est comme aujourd'hui, au bout d'un moment, les jeunes n'y croient plus trop. Et je le disais la dernière fois, parce qu'on avait, on s'était arrêté à cet endroit-là de sa vie, il a rencontré la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et là, il a découvert à nouveau Jésus-Christ. Et il s'est mis à prier. Et c'est là qu'il commence à se dire, mais peut-être que je vais devenir prêtre. Alors, prenez les textes que je vous ai donnés et le texte du milieu qui commence par « à 18 ans ». Je vais vous lire ce texte. C'est dans « Les pauvres sont l'Église ». À 18 ans, à travers la lutte jociste, j'ai recommencé à prier, à songer à libérer mes frères. Ah oui, il ne dit pas « à 18 ans, j'ai recommencé à prier ». Il ne dit pas ça. Il dit « à 18 ans, à travers la lutte jociste ». Autrement dit, c'est à travers un combat pour l'injustice. Les jossistes, à l'époque, ils étaient très proches des jeunes qui étaient dans les usines et qui travaillaient dur. Il n'y avait pas les lois sociales qu'il y a aujourd'hui. Il faut dire qu'on est avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'était un combat pour que les jeunes aient la vie plus facile, ou en tout cas la vie moins dure. Et c'est dans ce combat pour que des jeunes vivent mieux qu'ils rencontrent Jésus-Christ. C'est pas tout d'un coup un Jésus qui lui tombe sur la tête, ou tout d'un coup il se dit « Oh ben, je vais me mettre à prier ». Non, dans le combat pour plus de justice, il découvre Jésus-Christ. À 18 ans, à travers la lutte jociste, j'ai recommencé à prier. Et puis tout de suite après, à songer à libérer mes frères. Donc c'est pas tout d'un coup, il se bat pour la justice et ça lui donne l'idée de prier. Et puis voilà, il s'enferme dans sa prière, dans sa chambre. Non, sa prière le conduit à penser à libérer ses frères. Donc le combat le conduit à la prière et la prière le conduit à un combat pour la justice. C'est pas du tout une relation à Dieu qui l'enferme sur lui-même, mais c'est une relation à Dieu, au contraire, qui lui permet de continuer le combat qu'il a commencé. C'est alors que j'ai pensé à devenir prêtre. Prier dans l'Église, je cite toujours le Père Joseph, prier dans l'Église, offrir l'Eucharistie, c'était vouloir apporter l'Évangile à mes frères. Donc, le fait de prier, le fait d'offrir l'Eucharistie, donc le fait d'être prêtre, il a conscience que c'est donner l'Évangile à ceux qui l'entourent. Mais attendez, regardez bien ce qui suit. Apporter l'Évangile à tous ceux qui avaient vécu la même vie que ma mère. Donc pas seulement les gens qui sont dans la paroisse, qui sont des gens relativement aisés, mais les gens qui sont comme sa mère. Autrement dit, apporter l'Évangile aux gens qui sont pauvres comme sa mère et aux gamins qui sont pauvres comme lui quand il était petit. Et donc, son enfance lui permet de ne pas oublier ceux qui étaient comme sa mère. Et quand il... C'est important de réaliser ça parce que lorsque, vers 18 ans, il se dit « Mais peut-être que je pourrais devenir prêtre, peut-être que Dieu m'appelle », et puis qu'il se met à prier, à réfléchir, ça ne le fait pas s'évader du monde, ça le fait au contraire s'engager davantage pour la justice, et la justice pour ceux qui ont vécu la même vie que sa mère et la même vie que lui quand il était gamin ou que ses frères. Et je continue le texte. Et combattre pour eux, pour ces gens qui ont la même vie que sa mère, combattre pour eux, pour que jamais plus une famille ne fût semblable à la mienne. Combattre pour les pauvres, pour que leur vie soit plus juste, soit meilleure. Combattre pour eux, pour que jamais une famille ne fût semblable à la mienne, la conséquence, c'était devenir prêtre. C'est-à-dire, c'est pas « je deviens prêtre et parce que je suis prêtre, je vais vers les pauvres gens ». C'est « je combats pour les pauvres, eh bien, ça me fait devenir prêtre ». C'est-à-dire que son action pour plus de justice le conduit à devenir prêtre. Avoir retrouvé la foi, je termine le texte, ce n'était pas seulement trouver le sens du combat, c'était vouer ma vie à Jésus-Christ. Donc, il retrouve la foi à 18 ans, à cause de la JOC, parce qu'il y a les copains qui en parlent, il y a l'aumônier qui en parle, il réfléchit, il lise un peu l'Évangile, mais surtout, selon la méthode de la JOC, voir, juger, agir. Donc, on essaie de regarder ce qui se passe chez les jeunes qui nous entourent. On voit. Ensuite, on juge, c'est-à-dire on se dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ces jeunes de 15, 16, 17 ans qui travaillent 10 heures par jour, qui sont exploités, ça veut dire quoi? On réfléchit et après on agit, c'est-à-dire qu'on essaye de faire que les choses changent. Voir, juger, agir, c'est la méthode de l'action catholique, notamment de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et donc, cette action que le père Joseph mène, en tout cas il n'est pas encore père Joseph, hein, que le jeune Joseph mène à 17, 18, 19 ans, eh bien ça lui permet de découvrir Jésus-Christ. Jésus-Christ se révèle à travers son action. Donc le centre, c'est bien Jésus-Christ. Mais il y a un lien entre le combat pour la justice et puis la vie avec Jésus selon l'Évangile. Donc voilà, ce petit texte, mais qui est capital pour comprendre comment Jésus n'est pas tombé tout d'un coup sur la tête du père Joseph. Ce qu'il raconte, ce n'est pas comme le chemin de Damas, c'est-à-dire le jour où Paul, vous vous rappelez peut-être, Paul, il persécutait les chrétiens. C'était un juif très pieux et il persécutait les chrétiens parce qu'il pensait que les chrétiens avaient tort. Et puis un jour il va vers Damas, la Syrie actuelle, il va vers Damas, il est avec quelques compagnons et il va pour aller persécuter une communauté chrétienne qui se trouve à Damas. Et puis sur le chemin il est arrêté par une lumière. Et une lumière qui l'éblouit complètement, au point qu'il tombe par terre. Et alors, Paul est complètement étonné, et il dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Il a l'impression, quand il tombe par terre, que c'est pas seulement un coup de soleil, c'est pas seulement une pierre sur le chemin qui l'a fait tomber, c'est Dieu qui le fait tomber. Qui es-tu, Seigneur ? Réponse : je suis Jésus que tu persécutes. Tout d'un coup, révélation de Paul, révélation qui est faite à Paul, le Jésus qu'il est en train de persécuter, en persécutant les chrétiens, c'est Dieu. Et à ce moment-là, Paul devient aveugle. Alors il y a quelqu'un qui vient le chercher, qui le recueille chez lui pendant quelques jours, il s'appelle Anani. Et au bout de 3 jours, Paul recouvre la vue. Comme s'il passait de la mort à la vie. Il découvre Jésus. Et voilà, il change de vie, mais pour changer de vie, il a fallu qu'il devienne aveugle, et puis qu'au bout d'un moment, les écailles tombent de ses yeux et qu'il voit une vie nouvelle. Eh bien, ce n'est pas cette expérience qu'a faite le Père Joseph. Le Père Joseph, il a fait l'expérience de Jésus à travers et grâce au combat pour la justice. Il s'est engagé pour les jeunes, avec d'autres, dans la JOC, et là, tout d'un coup, pas tout d'un coup justement, dans la durée, comme ça, lentement, il s'est remis à prier. L'idée lui est venue de devenir prêtre, et pas de devenir prêtre pour être simplement pieux et dire la messe, et puis confesser les gens, mais être prêtre pour que davantage de justice soit dans le monde. C'est ce que dit le texte, avoir retrouvé la foi, c'était pas seulement trouver le sens du combat, c'était vouer ma vie à Jésus-Christ. Donc, il rencontre la JOC. Et puis, il pense à devenir prêtre, mais c'est pas si simple de devenir prêtre. C'est que faut avoir fait quand même des études. Et le brave Joseph, il a 18 ans, il a fait un apprentissage de pâtissier. Ben, c'est pas en étant pâtissier qu'il va faire les études de prêtre. Il a juste le certificat d'études. Alors il y a une religieuse du bon pasteur, qui était le couvent où il allait dire la messe, qui lui dit, mais tu sais, tu devrais reprendre des études si tu veux devenir prêtre. Et la maman Wrzesinski, elle n'est pas très contente, parce que c'est bien joli ça, mais si le fiston part faire des études, s'il va au séminaire, ben c'est bien, parce que c'est pour Dieu. Seulement, le brave Joseph, il ramenait de l'argent à la maison. Et alors, il n'y aura plus cet argent-là. Et la maman Wrzesinski se dit, mais moi, j'ai besoin de l'argent que Joseph ramène à la maison. Hein, ça fait bouillir la marmite. Donc ça a créé une petite difficulté entre Madame Wrzesinski et puis Joseph, entre la mère et le fils. Et finalement, Madame Wrzesinski a dit, mais non, c'est bien. Au moins, tu auras tous les jours à manger. C'est intéressant, c'est-à-dire on voit cette femme qui a l'habitude de jamais avoir assez pour donner à manger à ses enfants et qui se dit, ben, si Joseph... il est prêtre, au moins en voilà un de casé, il aura à manger. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir reprendre un peu des études, refaire un petit peu de français, et puis surtout, grosse difficulté, apprendre le latin. Parce qu'à l'époque, avant d'aller au séminaire, il fallait que les jeunes qui entrent au séminaire, ils sachent le latin, en tout cas suffisamment de latin, pour pouvoir comprendre la messe, pour pouvoir comprendre... Et donc, il faut que Joseph, il apprenne le latin. Et du coup, on le met dans un petit séminaire à Beaupréau, pour apprendre le latin avec d'autres élèves. Seulement, lui, il a 19 ans, et il est avec des gamins de 12 ans. Mais alors ça, c'est très difficile pour lui. Oui, vous vous imaginez, vous avez 19 ans, vous êtes avec des gamins de 12 ans, vous n'êtes pas à votre place, quoi. Surtout que, il est complètement nul. Il est quasiment le dernier de la classe. Il a 19 ans, ses compagnons de classe ont 12 ans, et lui, il est 37e sur 39. Il y a 39 élèves, il est 37e. Donc vous voyez, l'humiliation supplémentaire. Si vous avez 12 ans comme les copains, que vous êtes 37e, c'est déjà pas très marrant. Vous êtes presque le dernier. Mais si vous avez 19 ans et que vous êtes quasi le dernier, alors que les petits gamins sont devant vous, vous voyez, c'est de l'humiliation. En plus, on se moque de lui. On se moque de lui parce que il bredouille, il parle mal, il a du mal à s'exprimer, il est timide. Puis il est d'autant plus timide qu'il est le plus grand, Et du coup, il se sent pas à l'aise. Si bien que, après 2 ans, il est renvoyé de ce petit séminaire. Il est renvoyé en juillet 36. Alors on le retrouve ailleurs, à 160 km d'Angers. Là, il est surveillant dans une école. Et puis, il travaille le latin avec le supérieur de cette école. Bref, pendant tout un moment, il essaie d'apprendre le latin. Il n'y arrive pas. Finalement, personne ne sait s'il a jamais su le latin. Il a dû en apprendre un petit peu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a eu du mal, que c'était pas un bon élève, il n'était pas brillant, et que tout ça était difficile pour lui, qu'il en a été très humilié. Et alors, voilà qu'arrive le moment où il faut qu'il rentre au séminaire. On accepte qu'il rentre au séminaire. On ne lui fait pas passer d'examen, on accepte qu'on rentre au séminaire. C'est bien joli le séminaire, mais il faut payer le séminaire. Aujourd'hui, si un jeune rentre au séminaire, il rentre au séminaire et il n'a pas d'argent à donner. Il rentre au séminaire, puis c'est les chrétiens qui vont payer pour que les séminaristes puissent faire des études. Mais à l'époque, il faut payer une pension et il faut amener un trousseau, pantalon, chemise, chaussettes, etc. Et puis il ne faut pas amener un seul pantalon, hein, plusieurs pantalons, de façon à ce qu'on ne coûte pas de l'argent au séminaire. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Madame Brzezinski, elle n'a pas un sou. Et le brave Joseph, il travaille plus dans la pâtisserie, il gagne plus d'argent. Donc impossible de rentrer au séminaire. Alors à ce moment-là, il y a une sœur, s'appelle la sœur Leroux. Leroux, c'est son nom de famille. La sœur Leroux, elle a ses parents qui habitent dans l'Aisne, au nord de Paris, dans le département de l'Aisne, près de Soissons. Et elle parle de Joseph à ses parents. Les Leroux, les parents Leroux, ce sont des propriétaires terriens. Ils ont des terres près de Soissons et ils sont, c'est pas des richissimes, c'est pas des milliardaires, mais ils ont de l'argent, un petit peu d'argent. Et la sœur Leroux, elle dit à ses parents, mais au fond, ce serait peut-être pas mal d'aider le jeune Joseph. Il veut rentrer au séminaire, mais il ne peut pas y rentrer, il n'a pas d'argent. Alors les parents Leroux, ils acceptent de payer le séminaire. À une condition, c'est que Joseph, qui habite à Angers, il vienne faire son séminaire à Soissons pour que ce soit un prêtre dans le diocèse de Soissons, qui est le diocèse où habitent les parents Leroux. Ouais, ça se comprend tout seul, hein. Je paye les études d'un séminariste, mais qu'au moins ça forme un prêtre dans le diocèse où je suis. Voilà ce que pensent les parents Leroux. Et du coup, ça explique pourquoi le père Joseph a fait son séminaire dans le diocèse de Soissons. Pourquoi ensuite ça a été un prêtre dans le diocèse de Soissons, alors qu'il était d'Angers. Et que normalement, il aurait dû faire ses études à Angers et être un prêtre du diocèse d'Angers. Donc voilà Joseph, fin prêt pour rentrer au séminaire, il y a quelqu'un qui paie les études, tout va bien. Oui, tout va bien, sauf que le 3 septembre 1939 arrive quelque chose d'absolument effroyable, c'est la déclaration de guerre. La guerre commence avec l'Allemagne. Alors, entre-temps, juste avant, peu avant, dès 1937, en fait à la fin 37, il a été au service militaire. Donc j'ai été un peu trop vite avec la guerre. Juste avant d'entrer au séminaire, il fait son service militaire. À partir d'octobre 37, il fait son service militaire à Bar-le-Duc. Là voilà, ça, il s'y retrouve bien à l'armée, il est très actif. Il est président du foyer des soldats, il y rencontre un copain qui s'appelle Bach, B-A-C-H, et qui sera toute sa vie un ami, qui est resté un ami, qui était à l'époque séminariste, qui est devenu prêtre dans le diocèse de l'Aisne, et qui, plutôt de Haute-Loire, dans le diocèse de Haute-Loire, et que souvent le Père Joseph ira visiter, l'abbé Bach. Père Joseph parlait de l'abbé Bach, mon ami l'abbé Bach. Et donc, ce service militaire se passe très bien, jusqu'au jour où c'est la déclaration de guerre. Alors, au lieu d'être démobilisé, eh bien, Joseph continue le service militaire, et le 11 juin 1940, il est fait prisonnier. Il est fait prisonnier parce que, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais il y avait un pont qui était à défendre. Donc les gens avec qui il était, ils ont essayé de défendre le pont jusqu'à la dernière cartouche. Et puis quand la dernière cartouche a été tirée, eh bien on est venu prendre les soldats et on les a fait prisonniers. Donc il est prisonnier le 11 juin 40, mais quelques semaines après, le 25 juillet 40, Joseph s'évade. Joseph, c'était pas le petit gars qui dormait dans son coin, qui était bon, c'était quelqu'un de vigoureux, qu'il est resté toute sa vie d'ailleurs, même s'il était plutôt timide, mais il avait de la force et on n'imagine pas Joseph rester prisonnier. En tout cas, dès l'instant qu'il fut prisonnier, il a dû songer à s'évader. Et c'est ce qu'il a fait le 25 juillet 40, donc il est resté quelques semaines prisonnier. Alors là, il doit rejoindre le séminaire, mais le séminaire n'est plus à Soissons, parce que toute la campagne est occupée par les Allemands, et le séminaire s'est exilé près de Laval, en Mayenne, donc à l'ouest de la France, à Entrammes, dans le monastère des Trappistes. Et là, Joseph va y être pendant plusieurs années, mais le souci des séminaristes à ce moment-là, c'est surtout de manger. Non pas parce qu'ils sont gourmands, mais parce que la guerre fait qu'il n'y a pas beaucoup d'alimentation. Et donc c'est Joseph qui est chargé par ses camarades séminaristes de trouver à manger. Dis donc, pour améliorer l'ordinaire. Au fond, il n'y a pas grand-chose dans les assiettes, mais les copains disent à Joseph, écoute, toi, t'es débrouillard. Et donc Joseph va dans les fermes à côté et il arrive à ramener quelques œufs, des jambons, voilà. Et donc il est connu par ses anciens camarades qui ont témoigné après de Joseph à cette époque-là comme celui qui était débrouillard et qui permettait d'améliorer l'ordinaire et qui permettait aux séminaristes de mieux manger. Et puis finalement il rejoint Soissons quand la guerre est finie. Et puis il va être ordonné prêtre en 1946. Mais déjà pendant son séminaire, Joseph, il embête un peu tout le monde. Ses camarades de séminaire le décrivent comme un peu marginal. Il reste à la marge des autres. Il se lie pas beaucoup avec les autres. Et puis il a toujours dans la tête, et il parle que de ça, c'est les plus pauvres. Il dit toujours, mais les pauvres, les pauvres. À l'époque, les séminaristes, ils pensaient au monde ouvrier. C'était la grande époque où l'Église de France était très soucieuse du monde ouvrier, comment aller vers le monde ouvrier, qui était le monde des pauvres. Les ouvriers. Et Joseph, il disait à ses camarades, ben oui, c'est vrai, les ouvriers, mais il y en a qui ne sont même pas ouvriers. C'est vrai, vous parlez de tous ceux qui sont exploités par les patrons, mais il y en a, ils ne sont même pas exploités. Donc il y en a qui n'ont même pas la chance d'être exploités. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une chance d'être exploité, mais il y en a finalement, c'est pire d'être ouvrier. Alors, ces murs disaient, oui, d'accord, enfin, tu nous casses les pieds, quoi. Donc, ils se souviennent, après coup, quand ils ont été interviewés, les séminaristes de l'époque, ils se souviennent d'un Joseph qui toujours posait des questions. Ben, c'est bien d'aller vers les ouvriers. Et ceux qui ne sont même pas ouvriers, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Pendant son séminaire aussi, il allait faire des périodes de travail pendant les vacances scolaires, dans une usine de peinture, l'usine Valentine. Et dans cette usine, il avait repéré qu'il y avait au sous-sol des ouvriers qui manipulaient de la poudre et donc qui s'en prenaient plein le nez, plein la gorge et qui faisaient les travaux les plus difficiles et que ces ouvriers n'étaient pas défendus par les syndicalistes. Et du coup, il essayait de faire l'intermédiaire entre ces ouvriers du sous-sol et puis les syndicalistes. Et il s'est rendu compte que les syndicalistes ne voulaient pas défendre ces ouvriers les plus pauvres. Et du coup, ça a fait tout d'un coup prendre conscience au père Joseph, de manière plus précise, que dans le combat social, dans la lutte pour plus de justice, plus d'égalité entre les hommes, eh bien, il y en a qui sont complètement en dehors et qui sont défendus par personne. Et donc, dès son séminaire, le père Joseph prend tout d'un coup conscience que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvres, mais il y a encore plus pauvres. Et ceux qu'on ne voit pas et qui sont défendus par personne et qui font des travaux qui les rendent malades, mais personne ne revendique auprès des patrons qu'il faut peut-être des conditions de travail meilleures. Donc, Joseph, oui, à l'époque, il a 21, 22 ans, et bien Joseph prend conscience de ça, qu'il y a plus pauvres que ceux qu'on voit. Alors le voilà, et je vais terminer là dans un instant, par l'ordination, il est ordonné prêtre en 1946, à la cathédrale de Soissons, et il prend comme devise « Va au large et jette tes filets ». C'est la devise du père Joseph d'ordination. « Va au large et jette tes filets ». Alors, c'est intéressant cette devise parce que on a une lettre du père Joseph qui date de 1943. Et c'est une lettre qu'il écrit à son évêque. En 1943, il est encore au séminaire. Et il écrit à son évêque. Je vous lis ce qu'il dit. Ce que ma vie de prêtre me réserve. Donc, il imagine sa vie de prêtre dans 3-4 ans quand il sera ordonné. Ce que ma vie de prêtre me réserve, je l'ignore. Mais de toute façon, ce sera la joie de vivre avec le Christ. Bon, pour l'instant, très bien, s'il est prêtre, en effet, c'est vivre avec le Christ. Et aussi, la joie de travailler à son règne, au règne du Christ. Donc, en célébrant l'Eucharistie, en évangélisant les gens, en prêchant, pour l'instant, en confessant, pour l'instant, tout à fait normal. Joie de travailler à son règne, soit dans une paroisse du diocèse, c'est normal, être curé d'une paroisse, voilà. L'évêque, en lisant ça, il dit, ben voilà, c'est un bon prêtre, un bon séminariste. Attention, c'est là qui est important. Soit dans une paroisse, soit, si Dieu me fait la grâce de préciser son appel, aux confins du champ apostolique. Alors, aux confins, ça veut dire à la frontière, à la limite, à l'extérieur. Le champ apostolique, ça veut dire quoi le champ apostolique? Ça veut dire ce que va faire un prêtre, c'est-à-dire commenter l'évangile, dire la messe, confesser, aller visiter les malades, le travail d'un prêtre. Ça, c'est le champ apostolique, c'est-à-dire l'espace apostolique, ce qu'on doit faire. Et lui, il dit à la limite. Vous pouvez penser à ce que dit le pape François aujourd'hui, d'aller aux périphéries. C'est exactement la même chose. François dit les périphéries, Joseph dit confins du champ apostolique. Mais c'est exactement la même chose. Autrement dit, oui, je suis dans ma paroisse, mais c'est pas là que je vais parler de Jésus, je vais parler dehors, ailleurs, aux périphéries, ailleurs, à l'extérieur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « si Dieu me fait la grâce de préciser son appel ». Comme si, en 43, Joseph sans qu'il y ait quelque chose, que Dieu lui demande quelque chose. Mais il ne sait pas encore si Dieu me fait la grâce de préciser. Autrement dit, comme si Dieu l'appelle, mais Dieu n'est pas très clair. Dieu est plutôt même un peu confus. Joseph ne comprend pas encore bien ce qu'il doit faire. Mais Joseph a le sentiment que c'est peut-être pas dans une paroisse qu'il doit être, mais que son travail c'est peut-être ailleurs. Encore faut-il que Dieu soit plus clair. Et voilà ce qu'il dit à son évêque. On peut imaginer que l'évêque a dû se dire, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire Joseph? Mais, en tout cas, c'est en 43, 3 ans plus tard, Joseph est ordonné prêtre. Et là, eh bien, son évêque l'envoie à Ternier. Ternier, c'est une ville dans l'Aisne qui est un grand carrefour ferroviaire. C'est là qu'il y a énormément de trains qui viennent, qui sont réparés. Donc il y a beaucoup de cheminots qui travaillent. Il y a des usines pour les trains. Et il y a donc une vie ouvrière très active. Et c'est là que va être, pendant un peu plus d'un an, un an et demi, que va être Joseph. Et ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce que, au moment où il y est, il y a une grève. Une grève des cheminots. Et Joseph prend fait et cause pour la grève. Il défend les grévistes. Il défend les grévistes. Et il soutient les femmes de grévistes en disant « Il faut que vous manifestiez avec vos maris. » Et non seulement ça, mais les paroissiens lui amènent, pour lui, Joseph, des œufs, de la farine. La petite histoire dit « Une fois pour faire des crêpes pour une fête avec les jeunes, et Joseph y prend ses œufs, cette farine, et il donne ça aux femmes des grévistes. » Et dans la paroisse, ça dit « Surtout que le curé, il est vicaire, il habite au rez-de-chaussée de sa cure, et le curé de la paroisse, il n'est pas très d'accord avec Joseph. Il lui dit, mais c'est pas ça que Dieu demande. Dieu n'en demande pas tant. Et Joseph dit, mais c'est ça que j'ai à faire. Alors du coup, eh ben, ça se passe pas très bien, et il y a des querelles, il y a des incompréhensions entre le curé de la paroisse et puis Joseph. La suite au prochain numéro. Voilà. Donc c'est là qu'on s'arrête et la prochaine fois, on reprendra à partir de Ternier parce qu'il va changer de paroisse. Et donc, on verra la paroisse suivante.
J'aime beaucoup ce que tu as dit là. Malgré sa misère, son malheur, la foi de sa mère priait.
Oui, oui.
C'est vraiment. Voilà. C'est marquant.
Oui, 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 oui.
Parce que c'est vrai qu'il y a souvent là qui perdent leur point de repère.
Oui, oui.
Et que tout se perd. Mais comme tu as dit tout à l'heure, peut-être faut toucher le fond pour. Pour
sortir
plus loin et
puis
vraiment émerger.
Oui, oui. Je vais essayer de retrouver le texte où il parle de ça.
C'est quand il était plus jeune.
Oui, oui. Ah oui, quand il est petit. Oui. C'est un souvenir qu'il a, que sa mère priait.
Oui.
Oui. Donc, voilà, elle était attachée à Dieu, malgré la misère. Oui.
Quand même, c'était une forte personnalité, cette femme. Quand même.
Oui, oui.
Parce que pour subir tout ça, tout ce qu'elle a vécu,
oui.
Même avec son mari,
oui.
Surtout que
oui.
C'était
quelqu'un oui. Extraordinaire. Oui, 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 oui,
oui. Parce qu'il y en a qui se seraient oui. Aussi allés
oui. Pour elle. D'ailleurs, des gens qui l'ont connu, qui ont pu témoigner, se rappellent de, Madame Wrzesinski, qui était donc espagnole, et qui, dans l'église, faisait beaucoup de gestes, était assez exubérante. Hein. Donc on peut imaginer une femme assez vive, et bien vivante. Et en même temps, il y a un moment dans ce petit texte que je vous ai lu tout à l'heure, le Père Joseph dit « Comment expliquer la passivité de ma mère ?» que je retrouve aujourd'hui dans tant de mamans pauvres que je rencontre dans les lieux de misère. C'est-à-dire que on voit cette femme qui, la vie est tellement dure que il y a des moments sans doute où elle faisait plus rien, elle baissait les bras. Et donc le Père Joseph à la fois témoigne d'une femme avec beaucoup d'énergie, mais en même temps une femme qui pleure, qui ne cesse de pleurer, à cause du manque d'argent, et voilà. Et puis, une femme attachée à Jésus-Christ, et puis de temps en temps qui laisse tomber les bras. Et donc on peut imaginer une femme qui y a les hauts et les bas, hein, et donc c'est pas, la vie n'est pas rose, et c'est pas parce qu'elle prie que la vie est plus rose, mais voilà, c'est malgré la misère, comme tu dis, malgré la misère, elle est attachée à Jésus-Christ, et ça a beaucoup marqué l'enfant Joseph. Oui, va au large et jette tes filets.
C'est ça qui est écrit sur la tombe du Père Joseph.
Oui, à Méry-sur-Oise, où est entouré le Père Joseph. Eh ben, oui, il faudra y aller.
Parce que on ira si on le décide ensemble. Oui. Mais je me suis pour là, on va fêter les 100 ans de la naissance du Père Joseph, et donc si on se réfère à lui, c'est peut-être c'est un endroit qui est important qu'on pourrait aller. C'est pas très loin, c'est dans la banlieue parisienne. Ça mérite sur lui.
Oui. Et sur sa tombe, il y a cette devise « Va au large et jette tes filets », qui est une phrase de Jésus dans l'Évangile. Les apôtres reviennent, ils n'ont rien pêché, et Jésus leur dit « Mais écoutez, allez-y, allez au large et jetez vos filets. Voilà. »
Je crois que je vais en faire ma devise, parce que je trouve que ça donne...
Oui.
Ça donne un élan.
Oui. Et le va au large, c'est un peu la même chose que aux confins des champs apostoliques ou bien aux périphéries du pape François. Hein? Va au large. Reste pas sur la côte, va au large. Et puis jette les filets. Et tu verras bien ce que tu y auras dedans. Oui.
Joie de vivre avec le Christ.
Oui.
Et joie de travailler à son règne.
Oui.
Dieu me fait la grâce de
préciser
son appel.
Oui.
Ça
aussi. Oui.
Donc ça, c'est très fort.
Alors ça, c'est important aussi dans la vie du Père Joseph, je pense. Si Dieu me fait la grâce de préciser son appel, parce que si c'est vrai au début de sa vie de prêtre, même quand il était séminariste, où il ne voit pas trop où Dieu veut le conduire, je crois que c'est resté vrai toute sa vie. C'est-à-dire que le Père Joseph n'était pas quelqu'un qui savait ce qui allait avoir lieu dans 10 ans dans le mouvement athée des Quarts Mondes qu'il a créé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas dans la tête l'idée, une idée toute faite, hein, où il suffisait que jour après jour, ils mettent les pierres, mais sachant comment serait l'édifice, comme ferait un architecte aujourd'hui, hein, qui veut construire une cathédrale, mais il sait, au bout de 3 ans, quelles pierres on va mettre pour finir la cathédrale. Là, le Père Joseph ne savait pas avant, il ne savait pas tout, et tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a imaginé, il l'a fait aussi à travers des rencontres. C'est-à-dire qu'il rencontrait quelqu'un et il disait « Ah ben voilà, avec cette personne-là, on va pouvoir faire ça. » Et ça lui donnait une nouvelle idée. Et donc, parce qu'on peut imaginer comme ça que quelqu'un, tout d'un coup, il ait une illumination et il dise « Ah ben c'est ça que je dois faire. » Père Joseph, non. certainement eu une illumination, on en parlera plus tard, parce qu'il y a eu un moment, en effet, où il y a eu une sorte d'illumination chez le Père Joseph, et qui est une illumination de Dieu, presque quelque chose comme le chemin de Damas dont je parlais tout à l'heure, mais ça, on verra ça plus tard, c'est au moment où il rentre au camp de Noisy-le-Grand, mais pas sur ce qu'il devait faire. Il imagine bien que un jour, il faudra que ce peuple du quart-monde aille à l'Élysée, au Vatican, à l'ONU, mais c'est un peu, voilà, un idéal, enfin, c'est là où faut... Mais comment on va y aller? Il ne sait pas le chemin. Et le chemin, ça se construira jour après jour en rencontrant toi, 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 et avec tous ces gens qu'il rencontre, il va construire.
Mais c'est-à-dire qu'il va construire. À l'ONU, au Vatican, etc., ça vient après qu'il ait eu cette illumination.
Absolument, absolument. Donc il y a, on reviendra sur cette illumination au camp de Noisy, hein, et il a une forme d'illumination, et à ce moment-là il dit, eh ben, j'ai compris que ce peuple du quart-monde, ce peuple des très pauvres, ne s'en sortirait jamais s'ils ne sont pas admis là où débattent les gens, les puissants de l'avenir du monde. Donc, pas seulement débattre des problèmes des pauvres, mais débattre de l'avenir du monde. Et du coup, ça, il a cette conviction-là. Mais comment y arriver, ça, il n'en sait rien. Et ça va se construire peu à peu, et c'est jamais facile de ne pas savoir les chemins, même si on sait le but. Alors le but, le Père Joseph, ça a toujours été clair, c'est détruire la misère. Détruire la misère, parce que la misère, elle fait que ceux qui souffrent la misère, ils ne peuvent plus être enfants de Dieu. Parce qu'il y a trop de difficultés. Voilà. Trop de difficultés, du coup, ils ne peuvent plus être vraiment des enfants de Dieu. Et à cause de ça, Père Joseph dit, mais il faut détruire la misère. Le fondement de la destruction de la misère pour le Père Joseph, c'est une atteinte à la filiation entre l'être humain et Dieu. Au fond, bien sûr qu'on est toujours enfant de Dieu, quelle que soit la situation, et dans n'importe quelle prison à l'intérieur qu'on soit enfermé, on est toujours fils de Dieu. Mais on ne peut plus le sentir. On ne peut plus... Voilà, on dit, mais... Et même il y a certains qui disent, mais je suis indigne de Dieu. Au fond, peut-être que Dieu ne m'aime plus. Peut-être que Dieu me punit. Et tout ça qui est faux, bien sûr. Dieu ne punit personne, Dieu aime tout le monde. Dieu n'a jamais puni personne, et Dieu ne se venge de personne. Mais parfois, à cause de la misère et des difficultés, les gens peuvent le croire. Père Joseph dit, non, à cause de ça, il faut détruire la misère, parce que ça empêche les hommes et les femmes de se sentir vraiment fils et filles de Dieu. Alors ça, on verra ça plus tard, parce que ça a été très capital dans sa vie. C'est vraiment en 1956, en juillet 56, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, au point que il dit, ça a été pour moi un tournant. Un tournant. Mais ça, on reverra ça plus tard, dans, je pense, la prochaine fois ou dans deux fois, autour de l'entrée à Noisy-le-Grand. Voilà.
Prochaine fois, j'ai dû vous remettre toutes les dates sur l'éducation.